On continue d'analyser cette folle actualité politique et les conséquences de ce coup de tonnerre de ces élections législatives pour tous les camps politiques. On a parlé il y a quelques instants de ce qui était en train de se passer à gauche, du côté du Nouveau Front Populaire. On va essayer de voir ce qui est en train de se jouer. Attention, entre le camp présidentiel et une partie de la droite des Républicains. On va les retrouver tout de suite en direct de l'Assemblée nationale, Alexis Cuvillier du service politique de BFM TV, qui connaît par cœur les Républicains et qui les suit au quotidien. Alexis, expliquez-nous ce qui s'est joué à la réunion de groupe des députés élus les Républicains vers une esquisse de rapprochement.
Deux mots à retenir, Benjamin, ce soir, pacte législatif. Ce n'était pas forcément une hypothèse que nous avions imaginée, mais elle semble avoir été étudiée très sérieusement du côté des Républicains réunis à l'Assemblée cet après-midi. Très concrètement, il s'agit pour les députés républicains de proposer peut-être une dizaine de textes sur la sécurité, sur le travail, sur lesquels le bloc central s'engagerait à un soutien. En contrepartie, LR ne censurerait pas le gouvernement nommé par Emmanuel Macron. C'est un soutien, sans participation gouvernementale, pondère immédiatement un député qui participait aux échanges, même si sur cette question, on sent que certains députés sont peut-être un peu plus ouverts que d'autres. Le gouvernement ainsi soutenu par les Républicains resterait l'objet de menaces de censure du côté du Nouveau Front Populaire ou du Rassemblement National, sauf à trouver quelques autres voix, peut-être du côté de la gauche raisonnable, espère une députée LR. Il faudra surveiller de près les arbitrages de Laurent Wauquiez sur cette question. Sauf très grande surprise, il devrait être élu président du groupe LR de cette nouvelle assemblée dans les toutes prochaines heures. Lui veut se montrer constructif, ne veut pas d'un groupe passif, veut faire des propositions, mais n'aurait pas validé à ce stade le principe de ce pacte.
Alexis Cuvillier avec Vincent Gauthier. Antoine Armand, vous applaudissez ça le... Alors, on voit bien tous les codicilles qui sont mis par Alexis Cuvillier. Et en même temps, c'est un début. Je vois que dans le même temps, Olivier Marleix, le président sortant du groupe Les Républicains, qui va donc laisser la place à Laurent Wauquiez, qui dit dans les colonnes du Figaro, le président Macron devrait nommer un Premier ministre issu des Républicains. Donc c'est ça l'alternative au Nouveau Front Populaire ?
Bon, déjà, je salue une forme de changement de tonalité en quelques jours de la part de mes collègues de la droite républicaine, de LR, qui n'ont pas pactisé avec le Rassemblement National. Il y a quelque chose qui me frappe toujours beaucoup en France, c'est que l'idée de conclure un accord sur la base de textes, pour le coup, qui représente l'identité de chacun, est toujours vue, forcément d'abord, comme un reniement ou un renoncement. Mais c'est ce qui se passe dans tous les pays en Europe. Et donc, réfléchir sur la base de points très concrets, le travail, la sécurité, la maîtrise des flux migratoires, construire ensemble...
Mais donc saisir cette main tendue, ça vous apparaît comme mettre une bonne idée pour le camp présidentiel?
Quand vous regardez en tout cas l'arithmétique à l'Assemblée nationale et que vous voyez qu'il y a des divers gauches, le bloc central que nous représentons et puis la droite républicaine, et qu'avec ce bloc vous arrivez presque à la majorité absolue, je me dis... Il serait fou, il serait déraisonnable de ne pas regarder quelles sont les options, de ne pas regarder entre la droite républicaine et la gauche modérée qui est d'accord pour, un, protéger le pays des insoumis et, deux, éviter l'instabilité gouvernementale.
Charles Sapin, c'est quand même pas ce qu'on a entendu depuis deux jours de la part des Républicains, où Laurent Wauquiez, réélu dimanche soir au Puy-en-Velay, alors même si Alexis Cuvillier nous a dit il y a un instant que l'entourage de Laurent Wauquiez pour l'instant se tenait assez loin de tout ça, mais disait... Pas de coalition, pas de compromission.
Mais on va pas changer une équipe qui gagne, encore moins une méthode qui gagne, parce que LR, lors de la précédente législature, on s'en souvenait, il y avait 5 LR dans une pièce, 8 avis différents, donc on va voir si ça continue. D'autant plus que là, si vous voulez, les députés LR, c'est un peu les miraculés de Lourdes. Lors de ces législatives, au premier tour, ils ont réussi à passer à côté du vote de colère contre Emmanuel Macron, alors que ces députés LR ont pu soutenir plus d'une fois sur certains textes la majorité sortante. Au second tour, c'est mieux, ils ont profité du vote massif de la gauche et du centre qui faisait barrage au Rassemblement National, et pour une bonne partie d'entre eux, c'est grâce à ça qu'ils ont été réélus. Finalement, la politique, chose rare, leur donne une seconde chance. On se souvient que ces deux dernières années, le groupe LR était marqué par pas de ligne idéologique claire, pas de leader identifié et des députés qui fonctionnaient un peu en auto-entrepreneur. On va voir si cela change et si celui qu'il se pose aujourd'hui comme le nouveau leader qui revient à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez, arrivera à imposer une ligne et si cette ligne sera constructive, comme vous venez de le dire.
Pierre Giacometti, en même temps, si je sors ma calculette, à gros traits, le bloc central, le camp présidentiel, selon la façon dont on veut l'appeler, plus... les députés Les Républicains, même s'ils s'en sortent mieux que ce qui était anticipé, ça ne fait pas non plus 289. Ça fait même moins que la majorité relative lors de la précédente législature.
Je reviens à mon histoire de Mikado.
Ah, décidément.
Quand vous bougez cette baguette, LR, il va falloir savoir comment les autres baguettes réagissent.
Ouais.
Et celle du centre, du bloc central, il y a une aile de gauche dans la Macronie qui va s'interroger sur ses priorités, sur cet agenda législatif dont on vient de parler. Et puis, s'il faut chasser du côté du Front populaire, il y aura probablement quelques difficultés. C'est assez inextricable, en fait, comme situation. Pour les LR, il y a c'est vrai que la composition aujourd'hui du groupe est probablement plus recentrée depuis le départ d'Éric Ciotti et de ses soutiens. Mais c'est vrai que je rejoins assez ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre la vision, le cap, la stratégie, le leadership. Mmh. On entend même parler qu'il faut changer la marque, qu'il faut changer le nom du parti.
Oui. Oui,
tout ça donne le sentiment d'une espèce
d'imbroglio.
En fait, la réalité, c'est qu'à chaque fois se posera la question pour un gouvernement minoritaire, pour reprendre l'expression de Mathilde Panot il y a 2 ans, présenter à l'Assemblée un gouvernement minoritaire, est-ce que oui ou non il demandera la confiance ? Dans beaucoup de cas de figure, et dans la majorité des cas de figure, c'est la censure qui menace comme jamais. Et c'est ça qui rend évidemment la tâche du président de la République assez compliquée.
Je vous donne la parole dans un instant à Alexander Nikolic, député européen du Rassemblement national. Bonsoir. Juste avant, Amandine, est-ce que la façon dont les plaques tectoniques sont déjà en train d'évoluer au bout de 48 heures, est-ce que c'est ce qui explique le silence du président ? Qui, au fond, est en train d'essayer de voir comment, pour reprendre l'expression d'Edouard Philippe, comment la poutre travaille pour tenter d'éviter la solution consistant à devoir nommer quelqu'un du nouveau Front populaire ?
Pourquoi se dépêcherait-il ? En même temps, Emmanuel Macron, il a tout intérêt à voir les uns et les autres essayer de se dépatouiller là-dedans et de voir qui arrive à s'en sortir ou pas. Pour l'instant, la gauche, par exemple, si on commence par elle, ça n'est pas terrible, disons. Ils sont en train de faire des conciliabules pour essayer de trouver un nom consensuel, mais pour l'instant, n'y parviennent pas. Ce n'est pas la meilleure des entrées en matière possible. Ils ne sont pas clairs non plus sur leur programme. On voit que la droite essaie de trouver une ligne directrice, mais comme vous le disiez, il y a 1000 divisions. Donc, Emmanuel Macron a tout intérêt à laisser les uns et les autres d'abord commencer à clarifier les choses. Et puis lui-même, en effet, prépare éventuellement la suite. C'est-à-dire que le président peut aussi se dire qu'il peut y avoir plusieurs phases dans les mois à venir. Ça peut commencer par un gouvernement de gauche, pourquoi pas. Ça n'empêche pas de commencer à réfléchir à la suite. Et par exemple, si un gouvernement de gauche tombe assez vite à cause d'une motion de censure, il peut déjà avoir dans sa tête aussi, et c'est ce que Gérald Darmanin, par exemple, prépare, un gouvernement de coalition pour la suite. Mmh. Donc Emmanuel Macron peut avoir un billard à plusieurs bandes et sur plusieurs mois.
Alexander Nikolic, est-ce qu'au fond, si d'aventure ce type d'alliage réussissait à se mettre d'accord, à savoir le camp présidentiel et les Républicains, est-ce que vous dites que c'est un moindre mal pour éviter l'arrivée du nouveau Front populaire au pouvoir ? Parce que si on prend un point, disons, peut-être moins irritant pour vous que d'imaginer Clémence Guettet ou Jean-Luc Mélenchon à Matignon.
Ça, c'est sûr, mais ça ne fait pas une majorité. Enfin, jusqu'où va aller cette alliance ? Vous allez aller jusqu'à ELV, jusqu'au PS, qui vient de signer un programme quand même, le programme du Nouveau Front Populaire, qui était très clair sur beaucoup de sujets, notamment la régulation carcérale qui engendrerait la libération de 20% des détenus, notamment en matière d'immigration, avec ce droit de déplacement climatique qui engendrerait encore plus une accélération de l'immigration, sur la loi anti-squat ou la réquisition de domicile pour ceux qui ont une maison secondaire. Enfin, il faut savoir que ce programme qui a été validé par le PS et une grande part, enfin, et ELV et tous les mouvements de gauche.
Monsieur Nikolic, mais là on parle de ce que vient de nous raconter Alexis Cuvillier, c'est-à-dire l'idée que les Républicains disent sur une forme de un pacte législatif pour se mettre d'accord.
Mais jusqu'où ? Encore une fois, ça ne fait pas une majorité pour valider aujourd'hui des textes et ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc, on est effectivement dans une forme d'impasse, c'est vrai. Moi, je suis inquiet de voir effectivement qui va justement être dans cette majorité. Est-ce que, moi je vous pose la question, est-ce que vous allez prendre, vous parlez de centre-gauche, qui à gauche ? Est-ce que des gens donc qui ont signé aujourd'hui ce texte et ce programme qui était très clair. Et juste, si je peux me permettre, ELV, par exemple, qui chez ELV ? Quand Sandrine Rousseau dit qu'elle serait prête à prendre sur l'épargne des gens si la dette est trop importante, quand elle soutient Philippe Poutou, par exemple, quand elle soutient Raphaël Arnaud, c'est des gens qui prônent une violence quand même dans la rue. Enfin, c'est aujourd'hui ça que vous êtes prêt à accepter dans votre majorité. C'est
alors, assez déconcertant. Réponse d'Antoine Armand et ensuite on ira à Matignon retrouver Anne-Sara Dubois.
Évidemment, jamais de la vie. Mais vous avez raison de parler du fond. C'est important de dire ce qu'il y a derrière. Vous parlez de la loi anti-squat. C'est nous qui l'avons proposé, c'est nous qui l'avons fait voter. Vous parlez du pouvoir d'achat des Français. Qui baisse les impôts des Français depuis 2017? C'est nous. Et là, je vous rejoins sur un point. Le futur gouvernement, la future coalition devra avoir des points extrêmement précis. C'est ce qui fait aussi l'armature d'une coalition. Et nous, je le dis à titre personnel, mais c'est valable pour le bloc central, nous ne nous marierons pas à n'importe quel prix. Ni
vous dites
avec
comme vos collègues, le moindre gouvernement avec un insoumis, c'est motion de censure
mais
tout de suite.
Absolument. D'accord. Écoutez, quand vous avez des gens qui, depuis des ans, malheureusement, j'en suis le témoin oculaire direct, saccagent les règles élémentaires de nos institutions et font monter par leur irrespect le Rassemblement national, on ne peut pas cautionner ni leurs pratiques ni leurs mouvements.
Si je peux me mettre, c'est votre bilan, monsieur, qui nous fait monter.
Non, mais pas de phrase facile, on essaye d'avoir un débat argumenté.
Et quand vous, justement, quand on argumente, vous ne pouvez pas dire on a fait baisser les impôts quand en 2022, nous avons battu un record en termes de prélèvements obligatoires avec une augmentation encore de 7%.
La taxe d'habitation.
Et la part des prélèvements obligatoires a été la plus importante dans notre PIB de notre histoire.
Alors,
vous ne pouvez pas dire ça.
On va pas refaire le débat, sur la question des impôts, pour être très précis, les impôts ont baissé, simplement il y a plus d'argent qui était collecté, ce qui faisait mécaniquement monter la pression fiscale. Mais juste, ça c'était pour les faits, on va aller à Matignon, retrouver Anne-Sara Dubois. Bonsoir Anne.
Bonsoir Benjamin.
Cocktail organisé par le Premier ministre Gabriel Attal avec les députés réélus, aussi ceux qui sont perdus. Antoine Armand me fait signe sur ce plateau. Vous êtes invité, mais vous avez un peu de retard, parce que vous êtes sur ce plateau, c'est gentil.
J'ai préféré
c'est quoi l'idée de ce cocktail? Est-ce que c'est un pot de départ, une opération séduction, le futur président de groupe qui réunit ses députés?
C'est un peu de tout ça, c'est surtout une opération câlinothérapie qui s'annonce assez délicate pour Gabriel Attal ce soir. Il reçoit effectivement les élus, les battus, ceux qui ont dû se désister, bref, toute cette majorité sortante. C'est la première fois qu'ils se retrouvent depuis l'annonce de la dissolution par Emmanuel Macron. Ils sont ulcérés contre le président de la République, la très grande majorité d'entre eux. En tout cas, il nous a planté un couteau dans le dos, nous ont dit certains de ses députés en arrivant. Et en plus, ce soir, ultime affront, il reçoit le président du Sénat. Ça dit toute la considération qu'il a pour nous, qu'Emmanuel Macron se rassure s'il lui prenait l'envie d'organiser lui aussi un cocktail. Ces députés qu'on a interrogés nous ont dit de toute façon, on ne viendra pas. Voilà pour l'ambiance. Deuxième point sur la présidence du groupe, la pression se fait forte aussi vis-à-vis là encore du président de la République. Certains de ces députés demandent que ce soit Gabriel Attal qui prenne la présidence du groupe et donc qu'il soit dégagé de ses obligations au plus tôt à Matignon. Ils menacent même de ne plus siéger dans le groupe si Gabriel Attal ne devait pas avoir la présidence du groupe et ils ajoutent même ça n'est pas la peine de parler de coalition autour de nous puisqu'on ne sera plus là dans ce cas de figure. Voilà pour l'ambiance de ce soir autour d'un Premier ministre en sursis, une majorité sortante qui n'est plus majoritaire, un groupe ulcéré et divisé. Voilà les objectifs de câlinothérapie du Premier ministre ce soir.
Anne-Sara Dubois en direct de Matignon avec Vincent Berthézen. Donc Antoine Armand, ce que nous raconte Anne-Sara Dubois sur le ressentiment des députés vis-à-vis du Président de la République, je rappelle la phrase, s'il organise un cocktail... Pas.
Oui, il y a les petites phrases prononcées sous le coup de l'anonymat et puis il y a la réelle incompréhension face à une décision qui est apparue solitaire, qui est apparue déstabilisante, pas uniquement pour les députés Renaissance, c'est pas le plus important, mais plus largement pour les Français. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'il apparaît clairement, après ces 6 mois de travail à Matignon et après la campagne qu'il a menée tambour battant, que Gabriel Attal incarne aujourd'hui très clairement le leadership naturel du bloc central.
Et donc c'est lui qui doit prendre la
tête. Et que ce rassemblement, on verra, il y aura des élections, chacun pourra se présenter, mais c'est aujourd'hui ce qui se dessine très nettement.
C'est aussi ce qui se joue. La bataille du leadership en interne dans le camp présidentiel, entre Gabriel Attal qui l'a donc fait ce petit cocktail pour recevoir des députés. On a vu Gérald Darmanin qui hier déjeunait place Beauvau avec une trentaine de députés. Il va falloir regarder aussi de près la façon dont ça va se jouer, avec dans cette séquence un président qui lui reste silencieux.
Ça fait J plus 3 depuis le second tour. Si on fait le récit hostile de ces 3 jours, pour les millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national et qui ont entendu pendant une semaine entre les deux tours que leur choix était pour un parti ni démocratique ni républicain, je crois que le spectacle des 3 jours qu'on vient de passer, on n'a pas mesuré encore toutes les conséquences de ce qui est en train de se passer. Et comme ça va durer, puisque ça ne va pas se régler demain matin, je pense que le sentiment donné de la grande embrououille, pour ne pas être vulgaire, ça va créer beaucoup de tensions. Et évidemment, on peut toujours se dire, la politique du pire, ça serait dur. Finalement, c'est à l'avantage du Rassemblement national. Mais passons sur ces calculs-là. Quand on regarde aujourd'hui l'état de la société française et qu'on assiste au débat depuis 3 jours, on s'éloigne beaucoup de ce qui les préoccupe. Et on a le sens... Enfin, je pense, je parle...
Pour bien comprendre, vous dites au fond, tout ça, c'est... En clair, une forme de tambouille très éloignée du message qu'ont voulu envoyer les Français.
On entend le retour à la 4e République, on entend le régime des partis, on entend la distribution des jobs, des postes, et ça va continuer. Regardez, la semaine prochaine, il va y avoir la distribution des postes à l'Assemblée.
Qui est président de l'Assemblée, président de commission, caisseur.
Il risque de fabriquer beaucoup d'antiparlementarisme, encore un peu plus, beaucoup de rejets. Et c'est là où, évidemment, les grands acteurs du prochain rendez-vous présidentiel sont très... On voit bien, c'est pour ça que quand on dit, vous savez, regardez comment ça se passe bien en Allemagne, en Espagne, c'est des régimes où on peut discuter. Notre problème, c'est qu'on a deux légitimités et qu'on a une légitimité qui est supérieure à l'autre, qui est la légitimité présidentielle. Et on voit bien que dans tout le jeu des acteurs depuis dimanche soir, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, mais probablement aussi du côté de Marine Le Pen, tout ce qui est dans la... et de Laurent Wauquiez, ce qui est dans la tête aujourd'hui des grands dirigeants de ce pays, c'est d'abord... la préparation de la prochaine échéance présidentielle. Et ça, nos voisins européens ne l'ont pas.
Alexandre Nicolic, je vous donne la parole dans un instant, parce qu'on parlera du Rassemblement national. Mais juste, Amandine Atalaya, il est coincé à Matignon, Gabriel Attal. Parce qu'en fait, comme le président de la République a refusé sa démission, il ne peut pas y avoir de vacances du pouvoir. Et donc,
Non, complètement. Mais il préférerait être là où ça se passe, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Après, a priori, il devrait y arriver sans trop tarder quand même. Et...
S'ils
se mettent d'accord, c'est-à-dire que son sort dépend de la gauche. C'est assez malheureux pour lui aujourd'hui, pour qu'il arrive à s'en sortir éventuellement de cet enfer de Matignon. Et ensuite, Gabriel Attal, a beaucoup de chances de devenir le chef du groupe de l'ex-majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Et on a déjà compris lors du discours qu'il a fait le dernier soir qu'il aurait une forme d'autonomie et que ça ne se passerait pas exactement comme ça a pu se passer avant dans ce groupe.